Le journal Loïc Barrière. Toujours pas de président de la République en Irak. L'élection prévue aujourd'hui n'a pas pu se tenir faute de quorum. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame une tournée en Méditerranée. Demain, il participera à un sommet israélo-arabe en Israël. 158 migrants secourus par l'Ocean Viking au large de la Libye. Le navire fait route vers l'Europe. Nous écouterons Fabienne Lassalle, directrice adjointe de SOS Méditerranée. Enfin, à l'occasion du SIDAction, entretien avec Jean-Luc Romero-Michel, président des élus locaux contre le SIDA. Il rappelle qu'en France, on peut se faire dépister gratuitement dans tous les laboratoires. En Irak, l'élection du président par les députés n'a pas pu avoir lieu. L'élection prévue aujourd'hui a été reportée à mercredi car le quorum n'a pas été atteint. C'était le cas également le mois dernier. Une coalition chiite pro-iranienne a décidé de boycotter l'élection. 126 élus étaient absents contre 202 présents. L'élection du président irakien est un préalable avant la nomination d'un nouveau premier ministre. Sept ans après le début de la guerre au Yémen, les rebelles houthis auraient proposé une trêve et des pourparlers. C'est ce qu'affirme un responsable saoudien. Hier, les rebelles houthis ont visé une quinzaine de cibles en Arabie Saoudite. Malgré ces attaques condamnées par Washington et Paris, Riyad a maintenu le Grand Prix de Formule 1 qui se tient dans le royaume. Anthony Blinken attendu en Israël dans les heures qui viennent. Le secrétaire d'État américain va effectuer une tournée de plusieurs jours qui va le mener en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie. Demain, il participera à un sommet israélo-arabe déjà qualifié d'historique par Israël. Les dirigeants israéliens se réuniront avec les ministres des Affaires étrangères émiratis, marocains, bahreïnis et égyptiens. En deux jours, l'Ocean Viking a sauvé 158 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune. Le navire affrété par SOS Méditerranée a par ailleurs annoncé que deux personnes ont été retrouvées mortes à bord d'un bateau qui était surchargé. Parmi les rescapés figurent des femmes et des enfants. Une opération de secours qui a eu lieu au large de la Libye. On écoute Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l'ONG SOS Méditerranée.
C'est toujours aussi, en effet, au large de la Libye, les traversées continuent, des hommes, des femmes, des enfants continuent à vouloir échapper à l'enfer libyen et prennent la mer sur des embarcations extrêmement fragiles. Et malheureusement, il n'y a toujours pas assez de moyens en Méditerranée pour les secourir. Donc l'Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée, est arrivé dans ce qu'on appelle la zone de recherche et de sauvetage libyenne, donc en eau internationale, dans la journée de mercredi. Et de jeudi, il a fait un premier sauvetage où les équipes ont pu secourir et mettre en sécurité à bord 30 personnes. Et hier, dans l'après-midi, alors que la mer commençait à être démontée avec des vagues qui atteignaient jusqu'à 3 mètres. Les équipes ont fait une nouvelle opération de sauvetage d'une embarcation où il y avait plus d'une centaine de personnes. Elle était archibondée, dirons-nous, et particulièrement instable, et on le comprend vu l'état de la mer. Et donc 128 personnes ont pu être secourues au milieu de ces flots complètement dérangés. Et ont pu être mis en sécurité à bord du navire l'Ocean Viking. Malheureusement, dans cette opération, nos équipes ont vu après coup qu'il y restait dans l'embarcation deux corps inanimés qui étaient effectivement des personnes décédées. La mer était tellement mauvaise qu'il a été possible de récupérer un de ces corps, mais pas le deuxième. Donc nous avons à bord de l'Ocean Viking, au même moment où je vous parle, 158 personnes, des femmes, des enfants. Et je sais qu'il y a des enfants de moins de 5 ans. Il y a une femme qui est très proche du terme de sa grossesse, qui peut accoucher à tout moment. Et donc le navire a fait route vers l'Europe et est actuellement dans ce qu'on appelle la zone de recherche et de sauvetage italienne et demande instamment à pouvoir débarquer ces rescapés dans les meilleurs délais et évidemment également le corps de cette personne qui, elle, n'a pas survécu.
En France, on parle beaucoup de la situation en Ukraine, de l'élection présidentielle. Vous avez le sentiment qu'on ne parle pas assez des drames qu'il y a actuellement en Méditerranée ?
Le drame de l'Ukraine est malheureusement effectivement un drame supplémentaire qui s'ajoute et dont, sur lequel effectivement les regards sont aujourd'hui tous rivés. Mais cependant, il ne faut pas oublier les autres drames qui perdurent et qui ne se sont pas évanouis pour autant. Et effectivement, le drame en Méditerranée fait partie de cela et il est important de garder une attention et de chercher à porter assistance à ces personnes. Ce que nous révèle le drame ukrainien, c'est que c'est une nouvelle fois, et pour le coup, nous avons ce même discours, il est impératif de porter assistance à toute personne en détresse, alors qu'elle soit en Ukraine, qu'elle soit en Méditerranée. Il faut effectivement faire preuve de cette solidarité et pour pouvoir tendre la main et secourir.
Vous appelez les différents candidats à l'élection présidentielle à se positionner sur la question du sauvetage de ces personnes migrantes ?
Les candidats à l'élection présidentielle, pas spécifiquement. Ce sont les États européens que nous interpellons depuis des années pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous ne voudrions pas rentrer dans un débat qui serait plus politique en interpellant les candidats à l'élection présidentielle française, mais il est évident que effectivement le sujet doit demeurer doit être dans les programmes plus largement sur la nécessité de mettre en place les moyens pour secourir celles et ceux qui sont en détresse.
Et vous vous attendez à d'autres drames dans les semaines et les mois qui viennent? On est au mois de mars, c'est une période propice pour prendre la mer.
La mer est encore assez mauvaise, hein. C'est d'ailleurs le cas, comme je vous le disais il y a quelques minutes. La mer est très mauvaise, ce qui ne facilite pas le départ des d'embarcations, hein. Mais avec l'arrivée des beaux jours, on peut s'attendre à une météo plus clémente. Et oui, ça, on le sait d'expérience, c'est que dès que la mer sera meilleure, il y aura plus d'embarcations qui prendront la mer. Et de la même façon que ce que nous avons pu vivre ces mois derniers, ces années dernières, le manque de moyens en Méditerranée pour secourir aura pour effet immédiat plus de naufrages et donc plus de morts en Méditerranée. Donc oui, nous avons cette crainte dans les semaines et mois à venir.
Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l'ONG SOS Méditerranée. La 20e édition du Forum international de Doha se déroule ce week-end. Les participants ont pu entendre en visioconférence le président Zelensky. Le président ukrainien a appelé le Qatar à augmenter la production de gaz pour contrer la Russie. La France, la Turquie et la Grèce ont décidé de mener une opération conjointe d'évacuation de Mariupol. Près de 100 000 personnes sont toujours bloquées dans cette ville bombardée par la Russie. Et puis, selon l'UNICEF, le premier mois de guerre en Ukraine a provoqué le déplacement de 4,3 millions d'enfants, soit plus de la moitié des enfants du pays. Le SIDAction a débuté hier et se poursuit jusqu'à demain en France. Une levée de fonds destinée à financer la recherche sur le sida, mais aussi pour aider les associations qui s'occupent des malades et des personnes séropositives en France et à travers le monde. En France, les jeunes sont moins informés qu'auparavant sur cette maladie. On écoute Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris et président de l'association des élus locaux contre le sida.
Il faut dire que c'est pas forcément de la faute des jeunes, puisque malheureusement, comme vous le savez, avec la Covid, avec les confinements, etc., on a parlé de tout, sauf évidemment des autres maladies. La Covid a tout emporté sur elle, et c'est vrai que quand vous avez 18 ans, 19 ans aujourd'hui, vous n'avez pas vu de campagne, vous n'avez évidemment une partie d'enseignement est à distance, il n'y avait plus d'intervenants extérieurs qui venaient, donc pas d'association de lutte contre le sida notamment qui pouvait venir vous expliquer ce qu'est cette pandémie. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que presque un jeune sur quatre croit qu'on attrape le sida en embrassant, ne savent pas qu'une personne séropositive sans charge virale ne peut absolument pas contaminer même sans capote. Voilà, donc on est, je pense que c'est quand même une vraie responsabilité au départ à la fois des politiques qui n'ont pas su gérer plusieurs problèmes de santé publique en même temps. Et c'est d'autant plus difficile que vous imaginez aujourd'hui il y a quand même 2100 personnes qui meurent chaque jour du sida, et ces personnes, elles ne devraient pas mourir. Et ça, c'est difficile de le comprendre encore en 2022.
Alors, certaines personnes peuvent avoir le sentiment que le sida est une maladie qui a été éradiquée, en tout cas qui est moins dangereuse, parce qu'il y a la trithérapie. Pour autant, vivre avec cette trithérapie, j'imagine que ça n'est pas toujours simple.
Oui, les gens pensent aujourd'hui qu'évidemment, étant donné qu'une personne séropositive a une espérance de vie similaire à une personne qui ne l'est pas, qu'elle ne peut plus aujourd'hui, si elle est soignée, qu'elle ne peut plus infecter, chacun se dit, bon, on banalise tout ça. Et c'est là le grand tort, parce que même en France, on a entre 25 000 et 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles vivent avec le VIH. Et c'est ces personnes-là qui infectent aujourd'hui, puisque elles n'ont pas de traitement. Voilà. Et donc, il est plus que vraiment nécessaire aujourd'hui de remettre quand même cette question à l'ordre du jour, parce que notamment dans notre pays, on a tout ce qu'il faut en matière de dépistage, on a tout ce qu'il faut en matière de soins, on soigne eux-mêmes, et heureusement, c'est l'honneur de la France, les personnes sans papiers qui sont en France.
Vous parlez des sans-papiers, vous qui êtes élu à Paris, vous êtes préoccupé par la situation des migrants ou des personnes sans domicile qui pourraient être séropositives sans le savoir ?
Évidemment qu'on est extrêmement préoccupé, puisque internationalement, évidemment, on a en plus beaucoup de migrants qui arrivent, et notamment d'Ukraine, et vous savez que l'Ukraine est un pays qui est très touché par le VIH, et les gouvernements d'Ukraine avaient été assez responsables ces dernières années, des grands programmes, contrairement à la Russie d'ailleurs, qui est une honte en matière de lutte contre le sida, ils avaient mis en place un certain nombre de programmes, et aujourd'hui, notamment l'accès aux soins est devenu extrêmement difficile, et vous avez aujourd'hui en Ukraine et des migrants qui se retrouvent dans des situations terribles, et voilà, et c'est pour ça qu'il faut aller au plus près, c'est pour ça que tout ce qui peut être fait, par exemple en matière de tests rapides, ce que font les associations en allant au plus près des personnes, c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que je le disais tout à l'heure, on a tout ce qu'il faut en matière de dépistage, mais les gens ne le savent pas. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire biologique et faire un test VIH, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ça a été attendu à tout le pays depuis le 1er janvier dernier. Voilà, et donc il faut qu'on réinforme les gens pour les sensibiliser, et puis pour que toutes ces personnes qui ne savent pas qu'elles vivent avec le VIH, eh bien, puissent aller voir un médecin et puissent être traitées, et voilà, retrouver une vie, en tout cas, quasi normale, même si bah, ça reste toujours difficile d'être séropo. Il y a toujours des discriminations, des gens qui ont peur de fréquenter des personnes séropositives encore, ce qui est une aberration en 2022, mais on en est là, et c'est pour ça qu'il faut de l'information.
Vous parlez de discrimination, c'est le cas notamment au travail ?
C'est au cas au travail, parce qu'au travail, une personne séropositive ne dit pas qu'elle l'est. C'est le cas encore, même si les choses sont en train de s'améliorer. Si vous voulez faire un prêt bancaire, c'est extrêmement difficile, alors qu'on sait aujourd'hui que l'espérance de vie est la même. Quel est le risque pour une banque ? Quel est le risque pour une assurance ? Malheureusement, les pouvoirs publics ne sont pas intervenus suffisamment fort, même s'il y a eu des conventions, même si le Parlement a voté encore des améliorations récemment. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même incompréhensible qu'en 2022, une personne séropositive ne puisse pas s'acheter un appartement comme tout le monde. C'est antinomique de la réalité de ce qu'elle vit, et c'est une discrimination qui est violente.
À quoi sert l'argent qui est versé à l'occasion du SIDAction ?
Alors le SIDAction, c'est donc l'association, une association privée hein, qui a décidé de verser 50% à la recherche et 50% aux associations, dont des associations à l'international. Et ça, c'est tout l'honneur. C'est pour ça que cet argent est important. Il faut évidemment, ça ne doit pas dire au pouvoir public qu'il faut arrêter de financer la recherche et de donner de l'argent aux associations. Mais on voit bien que le complément qu'apporte est SIDAction est extrêmement important, d'où cette mobilisation nécessaire durant ces jours-ci, qui vont d'ailleurs durer encore plusieurs jours. Faites des dons, chaque petit don est utile, il est utile pour la recherche, et on parle beaucoup de recherche aujourd'hui sur un vaccin, et il est utile aussi pour l'aide aux personnes, et je pense notamment aux personnes qui sont dans les pays du Sud ou dans les pays de l'Est.
Jean-Luc Romero Michel, adjoint à la maire de Paris et président de l'association des élus locaux contre le sida. Il est possible de faire un don au SIDAction en allant sur sidaction.org ou en appelant le 110. N'oubliez pas le changement d'heure. Cette nuit, à 2h du matin, il sera en fait 3h. Cela représente donc 1 heure de sommeil en moins. Mais en contrepartie, nous aurons plus de lumière en fin de journée. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h sera Abdelkrim Branine. Il publie un premier roman, Le Petit Sultan, aux éditions Zellige. Rediffusion de cette émission demain dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.